des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube Radio.
Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Évidemment, on est en attente de ce point de presse avec François Legault. On va nous présenter aussi le nouveau directeur de la santé publique par intérim, M. Luc Boileau. Là, je vous rappelle que Horacio Arruda a offert sa démission au premier ministre. C'est tombé hier soir. C'est quelque chose qui se préparait quand même depuis quelques temps. Là, on va sans doute aussi parler de vaccination. Là, je vois qu'ils sont en train de prendre place avec M. Dubé. Troisième dose pour tout le monde. Deuxième dose pour les enfants de 5 à 11 ans. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Rouverture des écoles, je peux pas croire qu'on n'aura pas un mot là-dessus. On y va tout de suite.
Du premier ministre François Legault, on écoute monsieur.
Listen, first I want to begin by thanking Dr. Arruda.
Bon, là, on a un petit bout en anglais. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. On va rétablir la situation. Là, on a droit à une traduction. Évidemment, François Legault qui s'exprime toujours en premier lieu en français. Là, dès que c'est rétabli, on vous revient avec la diffusion en direct de ce point de presse. Donc, je disais qu'hier soir, on a appris. Bon, on l'a. OK, on y retourne.
Mais on a réussi à passer au travers puis à prendre au mieux de nos connaissances les décisions qu'on pensait les meilleures. Et vous savez, quand on vit ce genre de drame jour après jour, 7 jours sur 7, ça rapproche et ça me touche parce que le docteur Arruda, c'est quelqu'un de très attachant. Et je lui ai dit que, bon, évidemment, il quitte pas, il va prendre quelques semaines de repos, mais ensuite, il va venir continuer à nous aider et je lui ai dit que je voulais qu'on continue de se parler. Évidemment, être à tous les jours devant les médias à essayer d'expliquer les décisions, c'est pas facile pour personne, pas facile pour les politiques, pas facile pour les personnes qui ont des responsabilités comme la santé publique. Et je pense effectivement qu'il y a des avantages après un certain temps, après 22 mois, à avoir une nouvelle personne qui prend ces responsabilités-là là, de direction nationale de la santé publique. Mais je veux, au nom de tous les Québécois, dire un énorme merci au Dr. Arruda pour tout ce qu'il a fait. En particulier depuis 22 mois, pour le bien puis pour protéger les Québécois. Maintenant, je veux vous présenter le docteur Boileau. Docteur Boileau, qui était président avant les six, on appelait ça les agences de santé, là, de celles quand même très importantes de la Montérégie, même quand j'étais ministre de la Santé. Il était président aussi de l'INSPQ et actuellement, jusqu'à hier, était président de l'INES. Donc, il a toutes les compétences pour occuper de façon intérimaire ce poste. Et je veux le remercier parce que ce sont des grandes responsabilités et évidemment, là, il a accepté rapidement ses grandes responsabilités, donc je veux le remercier et souhaiter le bienvenu dans l'équipe. Bon, maintenant, revenons à la situation de la COVID. D'abord, je veux vous dire, là, j'ai eu l'occasion hier après-midi de parler avec les premiers ministres des autres provinces. Et je peux vous dire que la situation là est très semblable d'une province à l'autre. Évidemment, pour toutes sortes de raisons, l'indicateur le plus important sur la situation, ce n'est plus le nombre de cas, mais c'est plutôt le nombre d'hospitalisations. Je dirais même le nombre d'hospitalisations aux soins intensifs. Parce que, je vous explique la façon que ça fonctionne au Québec. Dans nos hôpitaux, quand un patient entre puis contracte ou qu'on découvre que cette personne-là a la COVID, c'est calculé au Québec selon un patient COVID. Puis actuellement, quand on regarde nos hospitalisations, il y a à peu près la moitié de nos hospitalisations où ce sont des personnes qui sont pas rentrées à l'hôpital parce qu'il y avait la COVID. Mais évidemment, quand on regarde, là, que ce soit les 8000 personnes dans nos hôpitaux, ben un peu comme dans la population, il y a un certain pourcentage qui a la COVID. Donc, faut être prudent dans les comparaisons. Faut être prudent aussi, même quand on regarde le nombre de décès, parce que là aussi, il y a des méthodes différentes de comptabiliser les décès. Bon, vous l'avez vu dans les analyses qui sont faites a posteriori sur la surmortalité, je veux dire, les vraies données comparables, il faut regarder la surmortalité, c'est-à-dire pour une période par rapport à la même période, les années avant la pandémie, combien il y a le plus de décès. Puis, bon, on le voit, le Québec déclare, a une méthode de déclaration qui fait que, a priori, ça peut paraître plus qu'ailleurs, mais quand on compare la surmortalité, c'est pas le cas. Donc, puis regardez aussi la situation du côté des soins intensifs. Actuellement, la situation puis le nombre de personnes par million d'habitants au Québec aux soins intensifs est pas différent de ce qu'on trouve dans les autres provinces canadiennes. Évidemment, toutes les provinces actuellement ont la même difficulté, c'est que non seulement il y a plus de patients, mais il y a moins d'employés. Actuellement, on a réussi à passer au travers avec la forte augmentation des hospitalisations, mais on calcule actuellement pour être capable de passer au travers les prochaines semaines avec les scénarios, les prévisions d'augmentation, d'hospitalisation pour les prochaines semaines, on calcule qu'on va avoir besoin de 1000 employés de plus dans nos hôpitaux, puis 1500 employés de plus dans nos CHSLD. Depuis quelques jours, le ministre de la Santé, la présidente du Conseil du Trésor, puis le ministre du Travail ont rencontré à quelques reprises les présidents des cinq grands syndicats, là, FTQ, CSN, la FIC, la CSQ, puis l'APTS. Puis je veux en profiter pour les remercier, parce que on me dit que le climat est très positif, il y a une belle collaboration. On a eu des propositions de la part des cinq chefs syndicaux, que ça soit pour améliorer l'environnement, pour qu'il soit plus sécuritaire pour les employés, que ça soit pour améliorer l'efficacité d'un point de vue administratif, ou que ça soit pour ajouter des incitatifs financiers pour convaincre les personnes qui peuvent donner plus d'heures de pouvoir donner plus d'heures au cours des prochaines semaines. Et on devrait, le ministre de la Santé devrait, au cours des prochaines heures, annoncer donc des nouvelles mesures après donc ces consultations-là avec les syndicats. Donc, je veux vraiment les remercier parce que c'est très important pour nous. Si on veut passer à travers la tempête qu'on vit actuellement puis qu'on va vivre malheureusement encore pendant quelques semaines, il faut qu'on travaille tous ensemble et c'est important de le faire avec les représentants des employés. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Puis je suis convaincu qu'ensemble, on va être capable de passer au travers les prochaines semaines. Maintenant, un mot sur les CHSLD. Évidemment, il y a des personnes qui ont été surprises, entre autres dans les Laurentides, de voir que certains patients étaient transférés des hôpitaux vers les CHSLD. Je veux juste dire, là, puis on a discuté beaucoup au cours des derniers jours, c'est pas du tout la même situation dans la plupart des CHSLD qu'on vit actuellement par rapport à ce qu'on a vécu au printemps 2020. D'abord, je le disais tantôt, on calcule qu'il nous manque à peu près 1500 employés. Rappelez-vous, à l'époque, il nous manquait 10 000 employés. Puis la grosse, grosse différence, je pense que c'était un bon choix qui a été fait de ce côté-là, c'est qu'on a commencé à donner la troisième dose à tous les résidents de CHSLD puis de RPA. Donc, actuellement, les personnes qui sont atteintes sont moins atteintes, en tout cas, les effets sont moins importants. Puis, il y a des endroits, puis c'est vraiment du cas par cas, quand c'est possible de voir qu'il y a quelques places disponibles dans un CHSLD avec le personnel disponible, puis que de l'autre côté, on a un hôpital qui est débordé, bien, effectivement, de transférer des patients pour qu'il y ait des meilleurs services. Il y a d'ailleurs des patients qui venaient des CHSLD puis qui doivent retourner dans les CHSLD. Mais je veux juste rassurer tout le monde, c'est clair là qu'on va pas aller transférer des patients dans des CHSLD qui sont débordés puis qui manquent de personnel ou qu'il y a des éclosions puis que la situation est pas sous contrôle. Mais dans certains cas, c'est préférable pour tout le monde de transférer certaines personnes là où il y a plus de place puis plus de personnel. Parlant de la vaccination, c'est vraiment la clé du succès. Et je répéterai jamais assez comment c'est important d'aller chercher sa première, sa deuxième, sa troisième dose quand vient notre tour. On est rendu aux 40 ans et plus. Donc, très, très important. Puis, bon, les spécialistes nous le confirment. Les risques sont beaucoup moins élevés d'avoir des hospitalisations quand on a eu nos doses. Et de ce côté-là, ben, je veux le répéter, les Québécois ont été des modèles. La grande majorité des Québécois, quand c'est leur tour d'aller se faire vacciner, vont se faire vacciner. Mais il y a malheureusement encore une petite minorité, là, on parle de 10 % de la population, qui refuse de se faire vacciner. Ça veut dire que même s'il n'y a pas d'enjeux médicaux pour ces personnes-là, ils refusent de se faire vacciner. Puis, vous savez, je comprends, puis je sens cette grogne de la part des Québécois à l'égard de cette minorité qui vient, toute proportion gardée, engorger nos hôpitaux. Parce que je répète les chiffres, même si c'est 10 % seulement des personnes adultes qui sont pas vaccinées au Québec, ben c'est 50 % des lits qui sont occupés aux soins intensifs qui sont des personnes non vaccinées. Donc, je comprends que c'est très choquant parce que ça met un fardeau vraiment trop important sur notre réseau de la santé. Et c'est pour ça que je vous annonce qu'on travaille actuellement sur une contribution santé qui va être chargée à tous les adultes au Québec qui refusent de se faire vacciner. Donc, évidemment, ceux qui peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales seront exclus, mais on pense qu'on est rendu là. Les personnes qui refusent de se faire vacciner amènent un fardeau sur le personnel, un fardeau financier important pour la majorité des Québécois. Donc, c'est pas vrai que ce 10 %-là de la population va venir nuire aux 90 % de la population. Donc, on est en train de regarder le montant. On veut que ce soit un montant significatif. Et ben, ça sera un peu une nouvelle contribution santé qui sera exigée. On est en train de regarder avec le ministre des Finances comment l'application va se faire. Mais tous les adultes au Québec qui accepteront pas dans les prochaines semaines d'aller au moins chercher une première dose, ben auront une facture à payer parce que il y a des conséquences sur notre réseau de la santé. Puis c'est pas à l'ensemble des Québécois à payer pour ça. En terminant, ben, je veux dire aux Québécois, là, je l'entends, puis je le perçois comme tout le monde, Je sais que vous êtes tanné, entre autres, du couvre-feu, puis on l'a dit, là, dès qu'on va sentir que c'est possible de l'enlever, c'est la première chose qu'on va enlever, puis évidemment, le nouveau directeur national de la santé publique va être consulté, puis il va nous faire des recommandations de ce côté-là. Même chose avec le retour à l'école. Moi, je veux continuer à viser lundi prochain, le 17 janvier, mais je veux que le nouveau directeur national de la santé publique prenne le temps de voir les avantages et les désavantages. Évidemment, retourner à l'école, ça veut dire plus de contacts, mais de l'autre côté, ne pas retourner à l'école, ça pose des enjeux de santé mentale et ça pose aussi des enjeux d'apprentissage puis de retard éventuellement pour certains de nos enfants. Donc, je l'ai toujours dit puis je l'ai dit clairement au nouveau directeur national, ça reste ma priorité, le retour à l'école. Mais tout ça pour vous dire que je comprends qu'on vous demande encore des sacrifices, mais on le fait pas pour le plaisir, là. Vous le voyez, ici comme ailleurs, il y a une augmentation réelle du nombre de décès. Donc, il y a des vies qui sont en jeu. Donc, ça devrait nous convaincre de faire encore des sacrifices pour les quelques semaines qui viennent. C'est important aussi, là, puis je veux lancer un message aux trois partis d'opposition. Je comprends qu'il y a une élection qui s'en vient au mois d'octobre, mais on a besoin, pour les quelques semaines qui viennent, de serrer les coudes puis d'être clair avec les Québécois qu'on a besoin de leur support. Et je sais que certains ont demandé, même si l'Assemblée nationale va recommencer à siéger, que ce soit en virtuel ou autrement, le 1er février, de commencer des rencontres dès maintenant. Donc, j'ai accepté et on va trouver un moyen, comme je l'avais fait, entre autres, lors de la première vague, d'avoir une rencontre téléphonique ou par Teams une fois par semaine pour répondre aux questions avec le ministre de la Santé, aux questions des trois chefs de l'opposition, puis aussi, évidemment, écouter toutes les suggestions. Là, on possède pas la vérité, puis il faut vraiment, plus que jamais, travailler ensemble pour être capable de prendre les meilleures décisions dans l'intérêt des Québécois. On vit vraiment une tempête. C'est pas une tempête qui est unique au Québec. C'est une tempête qui est mondiale. Puis je pense que toutes les énergies de tout le monde doivent être mises sur deux choses au cours des quelques prochaines semaines. Un, aller chercher sa première, deuxième, troisième dose quand c'est notre tour. Puis deux, ben réduire le plus possible nos contacts, surtout avec les personnes qui sont plus âgées. Donc, je compte sur vous. Merci beaucoup.
Le premier ministre qui durcit le ton envers les personnes non vaccinées. Ça fait déjà quelques jours que ça plane, là, certains ministres aussi qui avaient laissé entendre qu'on pourrait imposer une espèce de taxe santé. Donc, c'est assez majeur, là, ce qui vient d'être annoncé. On a appelé ça contribution santé, qui sera, entre guillemets, facturée à tous les adultes qui refusent le vaccin pour des raisons autres que des raisons de santé. Ce sera, c'est ce que dit le premier ministre Legault, un montant significatif parce que clairement, là, si on me charge 50$ sur mon rapport d'impôt, je pense pas que ça va me dissuader de quoi que ce soit ou que ça va me pousser à aller me faire vacciner. Là, le premier ministre qui a rappelé que 50% des lits aux soins intensifs sont occupés par des personnes non vaccinées et c'est le nerf de la guerre, hein, parce qu'on le dit, le nouveau principe, donc le nouvel indicatif de gravité de la pandémie, comment on s'explique la sévérité des contagions, ce sera en considérant le nombre de patients aux soins intensifs. Donc, tout est dans tout. Et cette décision-là, en tout cas, moi, je la salue. C'est une décision qui est difficile à prendre, clairement, là, que ça fera pas l'unanimité. Ça va ruer dans les brancards. On va brandir la charte. On va brandir toutes sortes de choses. On va se trouver des raisons. Mais rendu là, à un moment donné, et ça fait plusieurs fois qu'on le répète, je crois, là, plusieurs personnes sont de cet avis-là. La vaccination, c'est un choix. Mais moi, ma professeure de deuxième année du primaire m'a appris que quand tu fais des choix dans la vie, il faut que tu les assumes. Donc, tu peux pas te faire vacciner, mais assume, ce n'est pas au personnel de la santé et à la population en général d'essuyer, entre guillemets, les conséquences des choix de ces personnes-là. Là, le confinement, les entrepreneurs qui sont obligés de fermer, les restaurants, les infirmières, les médecins, tout le monde qui travaille en santé, là, le ventre à terre depuis des mois, puis qui doivent soigner tout le monde de toute façon, là, à un moment donné, la patience des gens a des limites. Donc ça, c'est une des affaires importantes qui s'est passée lors de ce point de presse-là. Évidemment, le premier ministre Legault qui a commencé son allocution en saluant le travail d'Horacio Arruda. Beaucoup critiqué quand même par la classe médiatique, par la population aussi, mais c'est quelqu'un aussi qui a été très, très aimé, profondément humain aussi. Le docteur Arruda qui prend un congé pour se remettre, entre guillemets, pour se reposer, puis le premier ministre Legault le disait, puis je pense que c'est juste de le souligner. Personne n'aimerait être dans leurs souliers. Là, je pense que c'est important de se le rappeler jour après jour après jour, devoir s'expliquer, devoir répondre aux questions des journalistes. Et c'est important que les journalistes posent des questions. C'est le travail des journalistes. Là, à un moment donné, on a même critiqué au début de la pandémie cette espèce de passe gratuite, là, c'est-à-dire les journalistes qui, peut-être étaient hésitants à mettre le gouvernement en boîte, à poser des questions, à relever, si on veut, les incongruités. Là, ça s'est replacé, mais vraiment pas facile pour les élus de vivre tout ça. Ça, on le reconnaît. Donc, 22 mois devant les médias. On nous spécifie quand même que Horacio Arruda ne quitte pas. Il va revenir nous aider. Se présenter aussi la nouvelle personne, là, Luc Boileau, qui est un médecin d'expérience, longue expérience en gestion de la santé. Jusqu'à hier, je le souligne, il était président de l'INES. Peut-être une occasion pour la CAQ, mais assurément, par ailleurs, une occasion pour la CAQ de réaligner la gestion de la pandémie. Tout le monde souhaite, et le Collège des médecins s'est exprimé un peu plus tôt aujourd'hui sur la question, éloigner le politique de la santé publique. Ça me fait toujours un peu rire parce que oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est un vœu pieux. Parce qu'à la fin de la journée, ce sont les élus qui prennent les décisions et c'est bien comme ça. Petit mot sur les hospitalisations. J'ai pas trop compris là ce que le premier ministre essayait de nous expliquer. Là, oui, la question des soins intensifs, c'est assez clair. Il nous dit qu'il faudrait être prudent quand on regarde les hospitalisations, notamment les causes d'hospitalisation, les décès aussi, la façon dont on compte tout ça. Et François Legault fait souvent ça. Là, y aller de longues explication pour dire, dans le fond, quelque chose de très simple. Puis dans ce cas-ci, moi, comment je le comprends, c'est qu'il essaye de prouver qu'on n'est pas pire qu'ailleurs. C'est carrément ça, là. Parce qu'il est critiqué, parce qu'on dit que dans les autres provinces, ça va mieux, que dans d'autres pays, on adopte des stratégies qui semblent être plus heureuses. J'ai envie de dire que être pas pire qu'ailleurs, plusieurs scientifiques seraient en désaccord. Là. D'ailleurs, on va parler à Nathalie Granvaux tantôt. On a parlé des employés aussi, 1000 employés qui seraient appelés nécessaires dans les hôpitaux, 1500 dans nos CHSLD. C'est cool. On pourrait les fabriquer avec du carton puis du papier. On manque déjà cruellement de monde. On pourrait demander aux étudiants, tiens, qui sont en école à distance, là, de les fabriquer, hein? Parce que si on fait faire de la flûte, on peut aussi faire des cours d'art plastique, j'imagine, parce que ces employés-là en santé, là, je ne sais pas où on va les trouver. Très honnêtement. Bon, puis terminons, là, avant d'aller à Nicole Gibault en parlant de vaccination. Important de faire vacciner tout le monde en troisième dose, là, mais pour les 5 à 11 ans, parce qu'il y a beaucoup de questions en ce moment, puis moi-même ce matin, là, j'essayais d'inscrire mes enfants sur Clic Santé pour leur deuxième dose. Sur certains sites du gouvernement, là, c'est encore indiqué que c'est le délai de 8 semaines, sur Clic Santé aussi à certains endroits, mais juste vous dire, là, la dernière information qu'on a, c'est qu'on a ramené l'intervalle là, à 3-4 semaines comme c'était supposé d'être, comme ce qui est supposé, ce qui est prescrit par la compagnie pharmaceutique. Donc, il y a plusieurs articles dans différents médias, là, partout où, puis le gouvernement, c'est la recommandation là, de réduire l'intervalle de 8 semaines, d'y aller quand ça fait 3 semaines. Puis d'ailleurs, le site le calcule pour vous, le Clic Santé. S'il est trop tôt pour prendre le rendez-vous de rappel pour votre enfant, le site vous laissera pas prendre le rendez-vous. Mais je vous disais tantôt que j'avais eu de la difficulté avec le site. Il faut pas aller dans la section vaccination, deuxième dose, enfants de 5 à 11 ans. Là, moi, ce matin, ça fonctionnait pas encore. Je ne sais pas si ça fonctionne maintenant. Là, écrivez-moi peut-être pour me le dire. Mais j'ai réussi à prendre rendez-vous pour mes 2, 5 à 11 ans en cliquant sur l'onglet vaccination, deuxième dose. l'onglet général. Et rendu là, ça vous demande le numéro d'assurance maladie de votre enfant, votre numéro de téléphone. Vous entrez ça, le site vous reconnaît et là, vous allez avoir accès à des rendez-vous, deuxième dose pour vos enfants. Il y a encore pas mal d'espace, donc peut-être dépêchez-vous parce que c'est ce qui est recommandé hein, pour un retour à l'école plus sécuritaire. Là, le premier ministre qui peut-être pèle un peu de nuages en disant « Ah, mais moi, je souhaite encore que ça soit lundi. » Il souhaite, mais il nous a quand même un peu ouvert la porte. Là, je pense qu'on s'en doute un peu. Là, le nouveau directeur de la santé publique peut-être abondera pas dans ce sens-là. On aimerait ça le savoir. Pour vrai, là, moi, j'ai plusieurs courriels de parents en ce moment qui réagissent au point de presse, qui m'écrivent pour dire « C'est cool, là, tout le monde le sait, peut-être que ça sera pas lundi. Pouvez-vous nous le dire d'avance pour qu'on puisse se préparer mentalement? » Parce que c'est ça, là, c'est pas drôle. C'est rendu qu'on se dit « Est-ce qu'on privilégie la santé mentale ou la santé physique? » La bonne réponse, ça serait de pouvoir privilégier les deux. Évidemment, ça va prendre la ventilation dans les écoles. Mais où est Jean-François Roberge? Ça, c'est la question que tout le monde se pose.